magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Vous le savez, le mois de septembre en France, c'est le mois de la rentrée littéraire. Des piles de nouveaux livres s'entassent sur les présentoirs des librairies. Pour l'essentiel, ces nouveautés sont des romans. Mais si l'on cherche bien, en général, au fond de la librairie, il y a des livres d'économie. Les économistes aussi font leur rentrée et trois d'entre eux sont dans ce studio pour nous présenter leur travail, leurs livres. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Daniel Cohen, vous êtes directeur du département d'économie de l'École normale supérieure à Paris. Vous publiez chez Albin Michel un livre au titre très littéraire. Il faut dire que les temps ont changé, point de suspension, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. Et avec vous dans ce studio, Gilles Raveau. Bonjour Gilles Raveau.
Bonjour.
Gilles Raveau, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Vous avez enseigné pendant 2 ans à l'Université américaine de Harvard. Vous êtes aussi chroniqueur régulier au mensuel Alter Echo. Vous publiez aux éditions du Seuil un livre intitulé « Économie, on n'a pas tout essayé ». Et je termine cette brève présentation par vous, Gilles Bercette. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Bercette, vous êtes professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille. Et avec vous, on prend un peu d'avance, puisque le livre pour lequel je vous ai invité sort seulement en librairie le 10 octobre prochain, chez Odile Jacob, son titre « Le bel avenir de la croissance », un livre coécrit avec Antonin Bergeau et Rémi Leca. Daniel Cohen, le titre de votre livre, je le rappelle, il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète, ça fait penser à ces anciens qui préféraient toujours le temps avant et qui disaient que c'était mieux.
Voilà, c'est un clin d'œil à ça, c'est évidemment un clin d'œil à une chanson de Diane Tell qui commençait exactement comme ça, et aussi à Bob Dylan qui disait dans les années 60 « Times are changing », et c'est ça le point de départ, c'est, on pensait que les temps allaient changer dans les années 60.
Qu'ils allaient changer au mieux.
Et en effet, ils ont changé, mais pas du tout dans la direction prévue. Puisque dans les années 60, quand ce cri « Times are changing » a été lancé, on pensait au fond, et c'est toute l'idée de la contre-culture des années 60, que la société industrielle allait se terminer. Au fond, c'était bien vu. Mais l'idée qu'on avait de cette disparition de la société industrielle, dans cette contre-culture des années 60, c'est qu'elle allait laisser place, au fond, à une société post-matérialiste, que les besoins allaient être satisfaits, que chacun aurait son téléviseur, sa machine à laver, qu'on pouvait se projeter dans un monde libéré de la question matérielle. Et d'une certaine manière, pour mai 68 et les jeunes gauchistes de cette époque, on pensait aussi que ça allait signer la fin du capitalisme.
Vous dites que la civilisation du monde industriel s'est effondrée.
Voilà, et en effet, ce monde industriel s'est effondré, et au fond, civilisation qu'elle portait encore, avec ses ordres, ses hiérarchies, et aussi ses modes d'intégration, c'est bel et bien effondré à partir des années 70, mais la surprise pour cette jeunesse...
Il y a toujours des usines un peu partout dans le monde.
Oui, mais la part de l'industrie, en tout cas pour les pays avancés stricto sensu, c'est beaucoup réduite. On est passé à 10-12%, de moins de 10% aux États-Unis, 12% en France. Et surtout, le mode d'organisation de la société industrielle a complètement volé en éclats. On n'est plus dans le monde où on était encore dans les années 60, encore une fois, dans lequel une usine comme Renault intégrer en son sein des ouvriers, des ingénieurs, des contremaîtres, des patrons. Tout ça a été explosé. La sous-traitance, l'externalisation, la délocalisation sont devenues la règle. Et on est passé en réalité d'un capitalisme industriel à un capitalisme, on va dire, tertiarisé.
Mais c'est ça la grande transformation. C'est pas un peu européo-centré, ça? Parce qu'en Chine, il y a d'immenses usines avec 200 000 ouvriers.
C'est un constat pour les pays avancés. Pas juste pour la France, mais c'est un constat pour ce monde qui était industriel et qui ne l'est plus, et en effet, il faudrait refaire tout le raisonnement pour les pays émergents et a fortiori pour les pays les plus pauvres qui sont chacun dans une phase antérieure, encore de transition de l'agriculture vers l'industrie pour les uns, et déjà aussi quand même, la Chine est déjà dans deux mondes, elle est dans le monde numérique et dans le monde industriel. Mais pour juste terminer cette séquence, je crois, et c'est le point de départ du livre, que c'est tout à fait fascinant de voir 50 ans plus tard à quel point les attentes ont changé. On était dans un monde dominé, on va dire, simplement par un état d'esprit gauchiste, gauchisant. Maintenant, c'est plutôt le populisme qui l'emporte. On pensait que c'était la fin du capitalisme qui s'annonçait peut-être. Jamais le capitalisme n'a été aussi puissant, y compris en Chine et dans les pays que vous citiez. Et c'est le récit de cette désillusion, de cette métamorphose que j'essaie de proposer dans le livre.
Et vous dites que les sociétés ont un irrésistible besoin de croissance, alors que partout, on entend dire « la croissance, c'est fini ».
Alors c'est un des points qui se manifeste dans les années 70, c'est-à-dire lorsque la crise économique frappe, on se rend compte que les aspirations post-matérialistes des années 60 sont très vite mises au placard et que le besoin est perdu de pouvoir d'achat, mais surtout de trouver un emploi dans la société qui s'annonce, reste très forte. Et c'est là qu'on passe d'un premier moment à un deuxième. On était dans les années 60 dans l'attente d'une disparition du monde industriel et du monde peut-être matérialiste dans lequel on est. Et avec la révolution conservatrice des années 80, on passe brutalement à une autre type de configuration idéologique, pour le dire comme ça, où Reagan, Thatcher et la révolution conservatrice dans son ensemble expliquent qu'en réalité, la valeur centrale du monde qui se construit, c'est le travail, un peu ce que Nicolas Sarkozy en France reprendra 20 ans plus tard en expliquant qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et au fond, c'est une révolution économique, bon, très importante, fondamentale, mais c'est aussi, ça se veut aussi une révolution morale. En vis-à-vis de la contre-culture des années 60, la révolution conservatrice veut expliquer que le travail, l'effort, l'abstinence, quelque chose qui ressemblerait à ce que Max Weber avait qualifié pour définir l'esprit du capitalisme.
Max Weber, grand
sociologue du début du XXe siècle, allemand, qui expliquait que, voilà, le capitalisme avait un esprit qui était, au fond, l'éthique puritaine de l'abstinence, du travail, de l'effort. C'est un peu ça qui nourrit la révolution conservatrice. Et je crois, de manière tout à fait symétrique aux désillusions qui ont été nourries par la contre-culture des années 60 de Bob Dylan et de mai 68 chez nous, en vis-à-vis va se construire exactement une désillusion symétrique avec la révolution conservatrice qui s'annonce comme une révolution morale et qui en réalité va faire aboutir, pour reprendre le titre français d'un livre de Stiglitz, va faire aboutir le triomphe de la cupidité, l'explosion des inégalités. Et je crois que les classes populaires sont passées d'une illusion messianique que pouvait porter les années 60, vous serez le pionnier de la transformation d'un monde sans classe, à une autre, vous serez le cœur d'une société qui redeviendra morale parce que le travail et l'effort seront au centre, au fond de la société. Ils ont été deux fois trahis et d'une certaine manière, c'est ça qui explique la montée du populisme, ce double ressentiment à l'égard de la gauche et à l'égard de la droite. Et pour le dire voilà, très, très vite, je crois que c'est ça la trajectoire qui nous permet de comprendre comment on est passé du gauchisme au populisme. Il faut inclure dans cette trajectoire les illusions de la révolution conservatrice qui ont été trahies tout aussi brutalement qu'ont pu être trahies avec la crise des années 70, les illusions qui étaient nées dans les années 60.
Alors on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Gilbert Sette, vous dans ce livre que vous allez publier chez Odile Jacob, Le bel avenir de la croissance, vous défendez aussi l'idée qu'on a besoin de croissance.
On a besoin de croissance et on peut avoir la croissance. Donc ces deux choses sont réunies. On a besoin de croissance aussi, peut-être surtout d'ailleurs maintenant, parce qu'on a des grands défis en face de nous. On a des grands défis qui sont par exemple comment vivre et financer le vieillissement de la population, comment vivre et financer la nécessité du désendettement et en particulier du désendettement public. Hein. La situation patrimoniale des administrations publiques est désastreuse dans de nombreux pays, elle n'est pas très brillante d'ailleurs dans le nôtre. Et puis comment vivre et financer le financement du fait de rendre soutenable d'un point de vue environnemental notre croissance, notre situation, nos niveaux de vie même seulement actuels. Et ça, vous voyez, ces défis qui sont devant nous se traduiront par une baisse du niveau de vie du citoyen moyen que nous sommes tous, sauf si nous pouvons bénéficier pleinement, complètement, du choc, du tsunami qui se dessine devant nous, de la révolution numérique et digitale, dont les effets peuvent être fantastiques. Mais si on s'en saisit pas, au lieu d'être au sommet de la vague et d'en bénéficier pleinement, on peut se faire rouler par la vague, rouler, heurter par le tsunami. Et l'objet de notre livre est de tirer les enseignements des précédentes révolutions industrielles, et entre autres de la deuxième révolution industrielle qui a traversé le XXe siècle, pour essayer de caractériser les conditions d'un plein bénéfice de ce genre de choc. Et ce qu'on observe durant le XXe siècle, c'est que cette révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, a amené des
celle
pays...
Celle des 30 glorieuses, celle des années 50-70.
Mais qui a démarré même dès le début du XXe siècle, par exemple pour les États-Unis. Eh bien, des pays ont profité pleinement de cette révolution industrielle, d'autres au contraire ont été déclassés. On cite souvent le cas, par exemple, de l'Argentine, dont le niveau de vie économique moyen était comparable à celui de la France et de l'Allemagne au début des années 30, et qui maintenant a un niveau de produit intérieur brut par habitant qui doit être aux environs de 40% de celui de la France. L'Argentine n'a pas su bénéficier de ce choc phénoménal de la deuxième révolution industrielle. Il ne faut pas devenir l'Argentine de demain.
Oui, vous écrivez que les pays européens ont un niveau de vie aujourd'hui qui est à 70% celui des Américains, et que le risque, c'est que ça s'aggrave, ce différentiel.
Le risque, c'est que ça s'aggrave. Alors, néanmoins, ce niveau de vie inférieur au niveau de vie économique moyen, hein, apprécié par le produit intérieur brut par habitant. Alors derrière ça, il y a des différences phénoménales, et entre autres d'ailleurs des situations d'inégalité absolument très très différentes d'un continent à un autre. Néanmoins, une partie de cet écart avec les États-Unis vient du fait qu'il y a une préférence beaucoup plus affirmée pour les loisirs sur le continent européen que sur le continent américain. Et la moindre mobilisation en quelque sorte de la population en âge de travailler dans le travail par des taux d'emploi plus faible d'une part et par une durée du travail plus courte d'autre part, eh bien ça veut dire plus de loisirs, c'est un élément d'amélioration du niveau de vie, qui est un choix manifeste dans tous les pays européens comparé aux États-Unis. Ça veut dire que l'arbitrage se fait pas simplement pour du niveau de vie économique, mais aussi par ce plus de loisirs.
Gilles Raveau, vous publiez donc un livre qui s'appelle « Économie, on n'a pas tout essayé » aux éditions du Seuil. Ce mot de croissance, vous le bannissez, c'est quelque chose après lequel il ne faut pas courir. Dites-vous, il faut abandonner l'idée de croissance économique pour régler des problèmes, en particulier écologiques.
Je dis pas ça dans l'absolu, je dis pour la France. Il est évident que les pays pauvres ont besoin de croissance économique. D'autre part, pour des pays développés comme le nôtre, c'est pas moi qui le dis, c'est juste la réalité qui va nous l'imposer. Donc on peut avoir tous les discours qu'on veut, mais je veux dire, l'avenir est déjà largement écrit. C'est-à-dire que si on continue la croissance économique au sein de notre système économique inchangé, il est bien évident que les problèmes liés à la destruction de l'environnement vont être bien supérieurs aux problèmes de financement des comptes sociaux actuels, de déficit d'administration publique, etc. Nous le savons tous.
Vous dites que la machine capitaliste s'est cassée, est cassée. Ça veut dire quoi ?
Alors ce qui est drôle, c'est que là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes, plutôt des économistes libéraux. Il y a quand même le Fonds monétaire international qui tire la sonnette d'alarme sur la baisse de la part des salaires dans la richesse qu'on constate à la fois dans les pays riches et aussi dans les pays en développement. Et donc effectivement, ça casse la machine capitaliste qui, comme l'avait parfaitement analysé Keynes, fonctionne quand même très bien lorsque l'argent réinjecté dans le circuit économique sous forme de distribution des salaires, puisque ça soutient la consommation. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de fuites, en fait, dans le circuit, puisque l'argent soit reste dans les entreprises. On le voit actuellement, c'est extraordinaire aux États-Unis avec les ahurissantes baisses d'impôts de Trump. Les sociétés américaines distribuent des dividendes à tour de bras ou rachètent leurs actions. En fait, l'argent ne retourne pas dans l'activité économique. Donc c'est un système complètement fou et qui, en fait, ne conduit pas au bien-être des populations. Parce qu'effectivement, le PIB par habitant est plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. Mais là aussi, tout le monde sait qu'on vit bien mieux en Europe qu'aux États-Unis. Les niveaux de pauvreté, d'inquiétude, de souffrance psychique, tous les indicateurs de qualité de vie sont catastrophiques aux États-Unis. L'espérance de vie a commencé à baisser aux États-Unis. Quand vous êtes aux États-Unis, vous savez pas si vous arriverez à être soigné. Pour le peu, j'ai vécu simplement 2 ans aux États-Unis, on voyait aux informations sur CNN des exemples de gens de la classe moyenne qui avaient une assurance santé mais à qui on refusait un traitement contre le cancer parce qu'on estimait qu'elles n'avaient pas donné suffisamment d'informations lorsqu'elles avaient souscrit leur assurance santé, qui aurait permis à l'assurance de détecter le risque de cancer. Il y a des gens qui meurent. Vous êtes aux États-Unis, vous ne savez pas si vous allez arriver à financer les études de vos enfants. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer à regarder ce pays comme un modèle en quoi que ce soit.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Trois économistes qui sont en librairie sont aussi dans ce studio. Daniel Cohen pour Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète chez Albin Michel. Gilles Raveau pour Économie, on n'a pas tout essayé aux éditions du Seuil. Et Gilles Berset pour Le bel avenir de la croissance chez Odile Jacob en librairie le 10 octobre prochain. On parle de post-capitalisme là, Daniel Cohen, de post-industrie, de... Où est-on aujourd'hui ?
Alors justement, on est certainement pas dans le post-capitalisme, on est en plein dans un capitalisme qui s'est totalement réinventé depuis 40 ans, et là, encore une fois, la question ne se pose plus dans ces termes-là, aujourd'hui et maintenant. Mais en effet, on est en train de découvrir plusieurs choses, et la première, pour rebondir sur ce premier débat, il ne fait aucun doute... Et les États-Unis en donnent une forme extrême, et c'est aussi le cas en France. En réalité, il ne fait aucun doute qu'on est passé d'un mode de croissance à un autre. La croissance des 30 Glorieuses, la croissance de la deuxième révolution industrielle, comme le disait Gilbert, était une croissance inclusive. C'est-à-dire, c'était une croissance qui était construite de telle manière que les ouvriers, les ingénieurs, les contremaîtres, les patrons étaient dans un rapport de solidarité, en réalité, les uns vis-à-vis des autres. C'était une société très dure, elle était hiérarchique, elle était d'obéissance, elle était conflictuelle, et c'est la raison pour laquelle elle était critiquée dans les années 60, mais elle avait cette caractéristique que dans ce temps-là, jamais un patron n'aurait osé s'augmenter s'il n'augmentait pas simultanément ses propres ouvriers. Les inégalités sont pratiquement stables au cours de cette période et le taux de croissance économique moyen est aussi le taux de croissance du pouvoir d'achat des ouvriers au cours de cette période. Donc, des caractéristiques qui se sont construites pas tout de suite de cette manière-là. Il faut vraiment attendre le Fordisme, la découverte par Ford que pour mettre les ouvriers à la chaîne, il fallait bien les rémunérer pour éviter l'absentéisme. Il y a eu des hésitations au départ, mais finalement, c'est le modèle dans lequel on était. On est rentré dans une période, alors peut-être que c'est une parenthèse, mais elle a duré presque 50 ans. Et au fond, le capitalisme au 19e siècle lui-même a connu deux phases. La première moitié du 19e ne ressemble pas du tout à la deuxième moitié du 19e, il est possible que voilà, on ait vécu une période de transition, mais il faut bien la comprendre. C'est une période où on a eu tout le contraire de ce qui s'était passé avant, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont surtout permis au cours de ces 40 dernières années à détruire l'environnement social du monde industriel d'avant. Elles ont servi à créer un rapport nouveau, on va dire, de donneur d'ordre à sous-traitant en lieu et place de l'ancien monde dans lequel on avait ces chaînes hiérarchiques dont je parlais. Et la raison principale pour laquelle ce nouveau mode de croissance qu'on associe à la révolution numérique a été si déséquilibrant, si inégalitaire, c'est parce que pour l'essentiel, il a cherché à changer le mode d'organisation des entreprises. C'est le constat que faisait Robert Gordon, un économiste bien connu chez les économistes, qui a écrit un livre sur le déclin de la croissance américaine, dans lequel, au fond, il dit « Ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est une amélioration à la marge de l'ancien monde industriel, c'est toujours des téléviseurs, c'est toujours des voitures, c'est toujours des avions, on est toujours dans les embouteillages ». Mais on optimise ce qui existe. Ça a été, pour le dire d'une manière simple, une période de cost-cutting généralisé. Un de mes collègues, Philippe
Asquenazi. De réduction des coûts.
Et mon collègue Philippe Asquenazi l'avait décrit comme un néo-stéchanovisme, c'est-à-dire que tout est fait pour que les gens, voilà, n'aient pas de temps mort. Et les gains de productivité qui se déploient au cours de ces 30 et 40 dernières années sont surtout liés à ce travail de démantèlement de l'ancien monde industriel, de créer des structures plus fines, dissociées. Il y a une statistique que je trouve très très intéressante, qui a été proposée par un économiste américain qui s'appelle Richard Freeman, qui enseigne à Harvard, et qui montrait que l'explosion des inégalités aux États-Unis, qui est sans précédent, on pourrait en reparler, mais juste pour donner une statistique, le 1% le plus riche aux États-Unis a vu sa part doubler en même temps que le 50%...
Sa part de richesse.
Sa part dans le revenu total a doublé en même temps que les 50% les plus pauvres ont vu leur part réduite de moitié. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le 1% le plus riche aux États-Unis gagne deux fois plus les 50% les plus pauvres. C'est les statistiques de Piketty et de son équipe.
Oui, mais donc il date d'avant l'ère Trump.
C'est bien sûr. Trump est l'expression de ce ressentiment des classes populaires à l'égard de cette révolution conservatrice qui, en gros, proposait exactement le contraire. Mais pardon, je reviens sur ce point pour dire donc que la statistique que je trouve très intéressante, c'est qu'alors qu'aux États-Unis, les inégalités ont explosé dans toutes les dimensions possibles, en fait, au sein des entreprises, il n'y a pas d'augmentation des inégalités. Et comment c'est possible? Mais parce que les entreprises deviennent des lieux de plus en plus homogènes, les ingénieurs restent dans des bureaux d'études, les ouvriers sont dans des équipementiers, dans des entreprises de sous-traitants où ils restent entre eux, et le service d'entretien de gardiennage et tout ce qu'on voudra sont dans des entreprises spécialisées où les travailleurs pauvres vivent avec des travailleurs pauvres. Donc les forces d'inclusion qui s'étaient construites ont volé en éclats. Ça, c'est la période qu'on vient de croissance. C'est une croissance qui n'est plus inclusive, c'est une croissance destructive, c'est une croissance qui dissocie les membres de la société. Et quand on dit les Américains ont une préférence pour le travail, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Tout ça pour dire qu'on a vécu une période d'immense destruction, avec finalement pour les classes moyennes très peu de croissance économique mesurable. La France se croit affranchie, autre statistique venue du laboratoire de l'école d'économie de Paris animée par Piketty.
Dont vous êtes un des cofondateurs.
Entre autres. Mais en France, toujours selon ces statistiques, de 1983 à 2015, les statistiques telles qu'elles existent, en moyenne, le pouvoir d'achat des Français, alors ça inclut la grande crise des années 2008-2018, qui est une période de stagnation, mais bon, elle fait partie du paysage, le pouvoir d'achat moyen des Français a augmenté de 25%, le pouvoir d'achat du 1% le plus riche en France, selon ces statistiques, a doublé au cours de cette période. Donc on est, en France aussi, même si on part de plus bas et que c'est moins visible, dans un monde d'inégalité croissante. Toute la question, c'est... Est-ce que cette phase de destruction est en train de s'achever et qu'on rentre dans quelque chose d'autre ? C'est possible. L'intelligence artificielle est très récente. C'est une technologie, en réalité, on les a vus battre, les joueurs de Go, etc., des 10 dernières années. Et bien entendu, la contrainte écologique nous oblige à repenser aussi entièrement la façon dont on va exister socialement, dont la civilisation urbaine va se construire. Donc oui, peut-être qu'on vient de finir une énorme période de destruction absolument pas réjouissante, mais peut-être que quelque chose d'autre, donc là je rejoins...
La destruction créatrice.
On a eu la période de destruction, pas beaucoup de création. Peut-être que, oui, un monde nouveau peut se construire maintenant, encore une fois, au 19e siècle, il faut vraiment faire la différence entre la première et la deuxième moitié. Peut-être que quelque chose de neuf peut se reconstruire, mais pas en extrapolant ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années.
Alors, Daniel Cohen, votre livre s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé ». Vous nous disiez tout à l'heure que c'est inspiré de Bob Dylan. On l'écoute.
Except if that's soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. For the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. You're
sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you're cradle in your hand, for the times they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the time.
Bob Dylan en 1964, The Times Are Changing, qui vous a inspiré le titre de votre livre. Daniel Cohen, vous pourriez le chanter ?
Mais je ne crois pas. Non,
non c'est
pour je peux chanter du Leonard Cohen, si vous voulez. Je suis plus à l'aise, c'est plus non. dans mes sonorités.
Ce sera pour le prochain livre, ah, peut-être.
Exactement.
Gilles Raveau, à travers l'exposé de Daniel Cohen, son dernière intervention, mais aussi tous vos livres, il y a un mot qui revient en permanence, c'est celui de productivité. La productivité qui baisse est un obstacle à la croissance, écrivez-vous, Gilles Berset. Vous, Gilles Raveau, est-ce qu'il faut progresser encore dans la productivité de nos économies modernes et industrielles ou post-industrielles ?
Voilà, c'est vraiment une question énorme que vous soulevez.
Vous qui l'a soulevé dans vos livres.
Oui, oui. Non, il n'y a pas de. Il n'y a évidemment pas. Il n'y a évidemment pas de. De réponse globale, vous savez, c'est comme les chasseurs, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, il y a la bonne productivité et la mauvaise productivité. Il y a évidemment la productivité qui soulage, la machine qui soulage l'homme, qui améliore le geste, qui améliore la sécurité aussi. Les usines sont aussi beaucoup plus sûres qu'avant parce que aussi elles ont été robotisées, il y a quand même beaucoup moins d'accidents du travail, c'est quand même quelque chose de fantastique. La question que soulève évidemment alors il y a aussi la recherche de productivité qui peut être mauvaise, par exemple l'agriculture. L'agriculture est un très bon exemple. On a mécanisé, utilisé la chimie à outrance depuis les années 50 au nom de la productivité. Et alors on avait des bonnes raisons de le faire parce qu'il y avait le souci qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui est quand même très récent finalement à l'histoire de notre pays. C'est la question de la sécurité alimentaire. On était très inquiets sur la capacité à nourrir le pays. C'est quand même pas une petite question. Donc effectivement, on a fait des choix dont aujourd'hui on sait qu'ils étaient mauvais, mais qui pouvaient aussi se comprendre à l'époque. Donc au nom de la productivité, on a fait des choses absolument terribles dont on va payer les conséquences sur la santé pendant encore des décennies. On trouve encore des traces de DDT encore aujourd'hui dans la nature, alors qu'il est interdit depuis les années 70. Et la question que pose la productivité, c'est une question fantastique et pour moi la principale question de l'économie, c'est la question en fait du partage des richesses. Parce que quand vous faites des gains de productivité, la question c'est qu'est-ce que vous faites après ? C'est-à-dire est-ce que vous réduisez le temps de travail de l'ensemble des collectifs de travail qui ont été effectivement atomisés, comme l'a très bien expliqué Daniel Cohen. Est-ce que vous augmentez les salaires ? Parce que qui dit productivité dit augmentation.
Et vous dites que la hausse du salaire est amie de l'emploi.
Oui, oui, bah oui, puisque effectivement, je pense qu'il y a eu une déformation du partage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite, en défaveur des salaires. Et d'ailleurs, à ce titre-là, moi, le message que je fais passer dans le livre, qui me paraît fondamental aujourd'hui face à la très très grande inquiétude qui ronge notre société, c'est que l'écologie et le social sont des amis, ne sont pas des ennemis. Hein. Et donc, il faudrait arriver, effectivement, à penser comme ça et à comprendre que, par exemple, la réduction du temps de travail à laquelle j'appelle devrait permettre, si elle est accompagnée éventuellement une hausse des salaires et aussi d'autres mesures adjacentes, aux gens de vivre mieux, d'avoir une meilleure qualité de vie, sans avoir une baisse, effectivement, de leur niveau de vie. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples concrets, si vous avez un investissement massif dans les transports en commun qui vous permet de ne plus prendre votre voiture, vous faites des économies. Si votre logement qui est mal isolé, là aussi, qu'est-ce qu'on attend pour faire enfin ce vaste plan d'isolation des logements ? Si on faisait enfin ce vaste plan, on pourrait faire des économies qui est proposée.
Vous parlez de la France, là.
On parle toujours de la France, mais c'est valable pas qu'en France. Ça permettrait de faire des économies de milliers d'euros par an pour certains ménages. Si vous réduisez aussi votre consommation de viande, la viande ça coûte quand même très cher, que vous passez à un régime où il y a moins de viande, vous êtes en meilleure santé et vous faites des économies. Donc je pense qu'il faudrait arriver comme ça à comprendre qu'on peut parfaitement concilier la transition écologique qui de toute façon est inévitable, soit on l'a fait, soit on l'a subi, donc moi je propose de la faire, et au niveau macroéconomique, il y a par exemple, j'invite les auditeurs à se reporter sur le site de la plateforme Emploi Climat, qui a fait un travail très sérieux, qui regroupe les Amis de la Terre, ATTAC, des gens sérieux, etc., qui montre qu'on peut créer 1 million d'emplois qui sont compatibles avec la transition écologique et qui sont source de bien-être accru.
Gilles Berset, vous, la transition écologique, elle est présente dans votre introduction et dans votre conclusion, mais vous ne vous y attardez pas du tout.
C'est un point qu'on souligne assez fortement dans notre ouvrage, que justement, les gains de productivité vont permettre de financer la nécessité incontournable de cette transition écologique et d'assurer en quelque sorte la soutenabilité de la croissance. Donc c'est un point qui est très très fortement souligné. On s'inscrit tout à fait dans la logique d'ailleurs qui est pas nouvelle, hein, qui a été ouverte avec fracas il y a déjà deux décennies par le rapport Stern, qui consistait à dire qu'une faible dépense actuelle peut éviter des coûts phénoménaux dans le futur. C'est un peu dans cette logique qu'on s'inscrit, et cette faible dépense, qui reste encore assez faible de nos jours, en tout cas est à faire. Elle est plus facilement assumable, évidemment, quand les gains de productivité sont importants que quand ils le sont pas. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans la logique de recherche des gains de productivité. Alors sur ce plan-là, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Gilles sur les questions de risques environnementaux, qui sont le risque premier, hein, parmi les défis devant lesquels on est, que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine, il y a de l'inertie, parce qu'il y a des irréversibilités, parce qu'il y a des ruptures qui peuvent être définitives, avec des effondrements de la biodiversité, avec des modifications des températures et toutes les conséquences, surtout pour certaines zones de la planète, qui seront très 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 longues, en quelque sorte à vivre, et le retour en arrière ne sera pas possible avant des décennies et des décennies. Donc sur ce plan-là, on est complètement d'accord. Les points sur lesquels je voudrais quand même introduire quelques nuances, c'est les effets du choc technologique. Vous voyez, quand on dit le choc technologique est associé à des nouvelles formes de travail qui menacent un petit peu ce qu'on a pu connaître pendant non seulement les 30 Glorieuses, pendant tout le 20e siècle, c'est-à-dire le développement du salariat. Moi, je regarde les statistiques, vous savez, moi je suis très très sensible aux données statistiques. Je vois que parmi les 36 pays de l'OCDE, eh bien, la part des salariés est stable ou augmente dans 33. 33 des 36 pays de l'OCDE. Et en fait, la part du travail non salarié n'augmente que dans 3 pays de l'OCDE. La France, depuis le statut de l'auto-entrepreneuriat en 2008, c'est quelque chose de très spécifique. Et puis le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour des raisons d'incitation fiscale également très spécifiques. Donc le salarié, pour l'instant, n'est pas menacé. Mais au sein du non-salariat, il y a évidemment des mutations qui s'exercent, et effectivement des formes de non-salariat dont l'activité est médiatisée par exemple par le recours à des plateformes, et qui sont des formes de subordination absolument incroyable. C'est pour ça que dans ce livre, on développe des analyses, d'ailleurs, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Barthélémy, qui disent que la prochaine révolution, en quelque sorte,
dans votre précédent livre en particulier.
Oui, la prochaine révolution du droit social, ça sera d'inscrire le droit social dans une recherche de protection, pas simplement circonscrite au salariat, mais qui couvrira en quelque sorte l'ensemble de l'activité professionnelle, y compris donc les non-salariés. Alors je voudrais juste évoquer la question des inégalités. D'abord, sur la question du partage salaire-profit, cette question est statistiquement très complexe. Je veux souligner qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question-là. Dans un pays comme la France, on voit que la part des salaires augmente sur les 20 dernières années. La part des salaires est plus forte maintenant qu'elle ne l'était, par exemple, pendant les deux décennies, 1988-2008, précédant la grande crise. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de complexe. Néanmoins, moi, ce qui m'inquiète le plus dans la recherche de croissance, ce qui m'inquiète le plus quand on parle des inégalités, que toute autre forme d'inégalité, c'est ce qu'on appelle les inégalités longitudinales. C'est-à-dire le fait que la mobilité sociale est très faible dans certains pays, a beaucoup baissé, et est très faible dans un pays, par exemple, comme la France. Vous voyez, l'OCDE a publié au mois de juin dernier un gros travail là-dessus, qui montre que la France, l'Allemagne et la Hongrie sont les pays développés dans lesquels la mobilité sociale est la plus faible qu'aux États-Unis, plus faible qu'aux États-Unis, vous m'entendez bien, et bien sûr, plus faible que dans les pays nordiques et scandinaves.
Gilles Raveau, brièvement, vous vouliez intervenir?
Oui, il y a deux points qui m'inquiètent quand même beaucoup pour l'avenir. C'est d'abord la question des discriminations, c'est-à-dire que, un peu comme ce que disait Daniel Cohen sur les inégalités, on se rêve un pays beaucoup moins inégalitaire que les États-Unis. Les discriminations sont massives en France, que ce soit l'accès au logement, au travail, au crédit. Il y a notamment autour de l'équipe de Yannick Lorty, il y a plein de travaux qui sortent, qui livrent des chiffres stupéfiants. Donc là, il faut faut faire de l'éducation, il faut faire de la prévention au sein des recruteurs, au sein des entreprises qui souvent discriminent sans même s'en rendre compte, donc les femmes par rapport aux hommes, les noirs par rapport aux blancs, les vieux par rapport aux gens qui ont 40 ans, etc. C'est une question absolument fondamentale qui ne reçoit pas du tout l'attention qu'elle mérite dans notre société. Et l'autre sujet qui m'inquiète beaucoup, là, je parle en tant qu'enseignant, c'est l'éducation. C'est-à-dire que alors là, il y a un virage effectivement qu'on n'a absolument pas pris, qui est le virage des compétences. Et moi, je suis sidéré de voir que j'ai des étudiants en master.
Donc qui, en quatrième année.
Donc en fin d'études, qui terminent leur cursus universitaire, qui sont bac plus 4, bac plus 5, qui ne savent pas maîtriser sur le bout des doigts les logiciels informatiques de base, Word, Excel, PowerPoint. C'est absolument sidérant. C'est des compétences qu'on devrait acquérir à la fin du collège. Et ça, je trouve que, je voudrais juste dire aussi, les travaux de Thomas Philippon aussi, il y a déjà des années là-dessus, qui avait alerté, le fait de pas travailler en équipe à l'école, le fait d'avoir des relations très hiérarchiques avec l'enseignant, ça ne favorise pas l'apprentissage de bonnes attitudes de travail qu'on retrouverait ensuite dans l'entreprise.
Alors, les inégalités, elles sont au cœur des économies modernes, et il y a plein de raisons qui y concourent. La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la CNUSED, vient de publier son rapport 2018, un rapport très critique sur l'impact du commerce mondial dans les pays pauvres. Un rapport dans lequel le rôle de l'économie numérique n'est pas oublié. Rachid Bouya est économiste à la CNUSED et il était de passage à Paris il y a quelques jours. Je l'ai rencontré, on l'écoute.
Ces dernières décennies, on a entre guillemets vendu le commerce international comme un des uniques moyens de développement et de croissance pour les pays émergents et les pays en développement. Donc on les a incités à adopter des stratégies de compétitivité, de créer un climat pour le business, de créer des zones franches, de mettre en place des politiques macroéconomiques qui visent à améliorer la compétitivité, c'est-à-dire à comprimer les salaires réels, à accentuer les exports et limiter les déficits. Et ces stratégies-là, en fait, tous les pays ne peuvent pas les adopter. On ne peut pas avoir seulement des pays qui exportent, on a forcément des pays qui importent. Et ce qui est important pour la CNUSED, c'est que les pays émergents et développement utilisent également leur marché et s'appuie sur la demande plutôt que sur des stratégies de compétitivité.
C'est-à-dire soit orienté vers la demande intérieure, vers la consommation intérieure.
C'est ce que la CNUSED en fait préconise depuis plusieurs décennies. Et malheureusement, ce débat-là, il n'a pas lieu. Donc on est plutôt là à faire le bilan de ce qui n'a pas marché en termes du niveau de commerce international. En fait, l'idéologie dominante dans l'économie internationale aujourd'hui, c'est que le commerce est devenu un objectif à part entière. On n'a plus du tout cette condition d'emploi et de développement qui était à la base associée au commerce international. On a perdu cette vision-là. Et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses.
Vous parlez aussi d'inégalités liées à ce commerce international. De quoi s'agit-il ?
C'est un fait établi. On a une hausse des inégalités de revenus, de patrimoine un peu partout dans le monde. On a également une baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée. Et en fait, comment le commerce international a contribué à cela? Il a contribué à ça par l'exacerbation du pouvoir de marché des grandes entreprises multinationales qui, elles, profitent pleinement du commerce international. Donc, il y a une statistique intéressante dans le rapport, c'est que 1% des entreprises exportatrices à l'échelle mondiale représentent en moyenne 57% des exportations. Donc, on a vraiment une mainmise du commerce international de la part de ces multinationales géantes. Et c'est un problème.
Et ces multinationales géantes, ce sont souvent des multinationales du numérique, du digital.
En effet, le secteur du numérique est un des secteurs où ces dernières années, vraiment, on a une augmentation de ce pouvoir de marché pour différentes raisons. Et ce pouvoir de marché dans ce secteur limite également tout le potentiel de croissance que les technologies du numérique auraient pu permettre aussi bien pour les pays en développement que dans les pays développés pour les petites entreprises ou les moyennes entreprises, par exemple. Théoriquement, les technologies du numérique pourraient permettre, par exemple, de mettre au point de nouveaux produits et de services, de développer et de coordonner des chaînes d'approvisionnement complexes, pourraient permettre à des petits entrepreneurs de participer au commerce via des plateformes. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a une émergence de monopoles de plateformes qui empêchent d'ouvrir ces potentialités.
C'était Rachid Bouya, économiste à la CNUSED, dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Daniel Cohen, cette compression des bénéfices aux mains d'un petit nombre de grandes entreprises qui obère le développement des pays émergents, c'est votre analyse aussi ?
Oui, en partie, et je crois que cette interview donne en fait le moment, le moyen de parler de cette transformation en cours que que ces GAFA, que ce monde numérique sont en train de construire, et on aura hors antenne après un débat sur la montée des inégalités en France et ailleurs, et la polarisation de l'emploi, comme on dit parfois, avec un affaissement de la classe moyenne au détriment du haut de la société. Mais
je crois l'avoir à l'antenne.
Mais non, parce que je crois que ça va être très technique, mais je crois qu'en effet la vraie question elle est là. En réalité, c'est un peu comme ça que je fais un clin d'œil au titre de mon propre livre, si vous me permettez de dire comme ça. Il faut comprendre ce qu'est, non pas simplement le quantum de croissance, mais la nature de la croissance. Donc c'est simple, je reprends une trilogie qui avait été proposée par Jean Fourassy il y a très longtemps et très classique. L'homme pendant des millénaires...
Un économiste auquel Gilles Ravoux fait également référence dans son livre.
Et qui était visionnaire à certains égards, puisqu'il a écrit en 1948 un livre qui s'appelle Le Grand Espoir du XXe siècle, qui nous permet de comprendre en réalité nos désillusions. C'est comme ça en tout cas que je l'interprète. L'humanité pendant 10 000 ans a cultivé la terre, et donc elle a cherché des gains de productivité dans ce domaine-là. Puis, elle a travaillé la matière, c'est la société industrielle dont je crois on est sorti pendant 2 siècles. Et maintenant, nous rentrons, disait Fourastier, en 1948, dans une société tertiaire, c'est-à-dire une société dont l'objet qui est travaillé par l'homme, c'est l'homme lui-même. Nous travaillons, nous sommes psychanalyste, nous sommes coach sportif, nous sommes enseignants, nous sommes aide-soignants, parce que la matière que nous travaillons, c'est l'homme. Fourastier dit, de manière assez extraordinaire en 1948, alors qu'il sait qu'on est dans une phase d'accélération du monde industriel, ce monde qui nous attend, c'est un grand espoir, parce que l'économie et la société vont être réhumanisées. Mais attention, ajoutait-il, ce sera une société sans croissance. Ce sera une société sans croissance parce que la valeur du bien qui est produit, c'est le temps que nous passons avec autrui. Le temps n'étant pas extensible, sauf à travailler toujours plus pour gagner plus, ce qui est la proposition de la révolution conservatrice et d'une certaine manière ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous sommes dans une société qui va atteindre un état stationnaire, c'est un peu ce que disait John Stuart Mill un siècle avant, et ce sera très bien. Bon, le problème, c'est que nos sociétés ont un rapport addictif à la croissance, et on ne va pas expliquer dans tous les détails pourquoi, et donc ce pronostic de Fourastier n'a pas tenu. Une société stationnaire où, au fond, on est content d'être enseignant, être soignant, sans croissance, ne tient pas. Comment trouve-t-on de la croissance dans une société de service dans laquelle l'objet qui est travaillé, en tout cas asymptotiquement, mais encore évidemment des biens industriels qu'on gère,
asymptotiquement,
etc., c'est-à-dire à long terme, lorsqu'on sera totalement débarrassé du monde industriel, comment on fait pour trouver de la croissance dans un monde où l'objet qu'on travaille, c'est l'homme, et donc où le soin qu'on lui apporte se proportionne au temps qu'on lui passe? Eh bien, nous sommes en train, ça fait le lien avec les GAFA, nous sommes en train de comprendre la réponse que le monde moderne est en train d'apporter à cette question. Pour trouver de la croissance dans une société de service, où l'homme est l'objet travaillé, il faut changer la nature de l'homme. Il faut que l'homme cesse d'être un être de corps et de chair pour devenir une information qui pourra être traitée par un algorithme ou une intelligence artificielle. Lorsque les malades deviendront entièrement numérisés, alors il n'y aura plus besoin d'aide-soignant, puisque un logiciel pourra faire un diagnostic et proposer des solutions. L'Apple Watch est un exemple qui vient d'être sorti, où on prend le pouls, la tension des personnes, et on va avoir très vite un Amazon qui va vous proposer les médicaments qui sont assortis à ça. Dans un monde futuriste qui est évidemment un monde d'horreur, les enseignants seront remplacés par des algorithmes et des logiciels
et
qui apprendront aux gens. Des robots s'occuperont, comme c'est déjà le cas au Japon, des personnes âgées. Donc on peut imaginer un monde numérique dans lequel la déshumanisation qui avait été la règle dans la société industrielle, c'est pour ça qu'on l'a critiqué, le travail à la chaîne, etc. C'était au fond l'acceptation d'une déshumanisation du travailleur au nom des gains de productivité. Il est possible que nous soyons en train de répéter, de resigner ce pacte faustien, qui est d'accepter une déshumanisation de ce monde qui devait l'être pour retrouver de la croissance. C'est pour ça que mon titre, Les temps changés, est en réalité ironique. On ne l'apprend qu'à la fin, mais je vous le dis maintenant. Je pense qu'en réalité, on est en train de retrouver quelque chose de nouveau, mais qui ressemble beaucoup à ce qui s'était fait dans la société industrielle d'hier. Hier, on était à la chaîne. le jour, à la chaîne le soir, en regardant des émissions de télévision ou en consommant des produits qui étaient toujours les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que c'était une société qui était considérée comme abêtissante. Aujourd'hui, nous sommes en ligne au travail, en ligne quand nous consommons. Donc ça, c'est malheureusement ce qui se dessine dans cette société algorithmique qui cherche des gains de productivité là où, a priori, elle n'en trouve pas. J'ajoute, parce qu'on ne peut pas terminer
finalement,
sur cette vision
d'horreur,
j'ajoute finalement que ça n'est pas écrit que l'intelligence artificielle peut accomplir ce qui en fait se dessine depuis 50 ans, mais on peut évidemment imaginer un autre scénario qui est de fait celui que l'histoire a en général fait advenir, un scénario dans lequel les aides-soignants ne sont pas remplacés par des algorithmes, même si je crois encore une fois que c'est la tendance et c'est ce que souhaitent au fond les GAFA. On peut imaginer au contraire que les hôpitaux se saisissent de ces technologies pour rendre plus productifs les infirmières, au sens où elles pourront disposer d'informations pour traiter les malades d'une manière plus efficace. De même, on peut espérer que les enseignants se serviront de ça plutôt que de se faire remplacer. Mais attention, oui. Ça ne se produira pas tout seul. Le monde que les GAFA veulent faire advenir, c'est le premier. Et c'est au fond à nos sociétés de faire advenir le deuxième.
Gilbert Sept.
Oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, notre ouvrage avec Antonin Bergeau et Rémi Lequin introduit des grosses nuances. C'est bien parce que ça met sur la table des débats.
Vous savez, on a encore deux minutes alors.
Oui, allez, nous, on considère qu'il y a des gains de productivité phénoménaux qui vont se produire dans l'économie des services. Et évidemment, les premiers domaines dans lesquels ça va se produire, c'est l'économie du transport avec l'émergence des véhicules autonomes. C'est fantastique ce qui se passe aussi dans le secteur bancaire et financier avec la disparition des agences, ce qui va se passer dans le commerce avec la disparition de évidemment du caissier et de la caissière, ça c'est merveilleux. Là où je suis d'accord avec ce que vient de dire Daniel, c'est qu'évidemment, ces gains de productivité phénoménaux dans le secteur des services, qui sera nouveau, parce que pour l'instant, les services se distinguaient par des gains de productivité assez faibles par rapport à l'industrie. Là, c'est dans les services qui vont se produire essentiellement les gains de productivité liés à au nouveau choc technologique, en quelque sorte. Mais ce à quoi il faut être attentif, c'est bien sûr la mobilisation de ces gains de productivité. Vers quoi, vers qu'est-ce? Là, je rejoins Daniel, là, nous rejoignons Daniel dans notre ouvrage pour dire qu'il faut être attentif à ce que ça permette un reversement, en quelque sorte, vers d'autres services, très attentifs à la personne, avec de l'interrelationnel, avec l'économie du care, en quelque sorte.
Le care, le soin, l'attention,
qui accompagnera, bien sûr, le vieillissement de la population. Et c'est quelque chose auquel il faut être attentif et qui appelle une réflexion et en tout cas une tension sur les questions de répartition et d'inégalité.
J'ai bravo pour un dernier mot dans cette émission.
Juste pour
je ne vous redonne pas la parole, Daniel Cohen, parce que vous êtes trop long.
Juste pour rebondir très rapidement sur l'extrait sonore que vous nous avez passé, j'ai redécouvert un vieux texte qui s'appelle La Charte de la Havane, qui a été signé en 1948 lors d'une conférence organisée par les Nations Unies, qui est un texte absolument extraordinaire, où on explique de la façon la plus lucide qui soit que le commerce international doit être subordonné au bien-être des populations et à la lutte contre le chômage. Et je pense que l'erreur catastrophique qui a été faite notamment par la construction européenne, ça a été de faire le commerce et du libre-échange une fin en soi, et donc de renverser cette hiérarchie entre le commerce et le bien-être des populations. Et je pense que c'est une des sources du mécontentement des populations vis-à-vis de l'Europe aujourd'hui.
Alors je rappelle pour ceux qui auraient des souvenirs assez vagues d'histoire que 1948, c'était bien avant l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à la Havane.
Oui, non, c'est une conférence organisée par les Nations Unies.
Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Daniel Cohen, Gilbert Sept, Gilles Raveau, d'avoir été dans ce studio. Les titres et les références de vos trois livres sont évidemment sur la page internet de l'émission, sur le site www.rfi.fr ou via l'application Pure Radio. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.